nous avons commencé par l'aperçu général du landgraving au niveau mondial, et nous donnons la parole à Michel Merlet pour qu'il nous explique les conséquences également d'un point de vue général.
Merci Pablo. Alors, on va repasser au niveau global. Je vous avais expliqué un petit peu tout à l'heure les nouvelles conditions qui étaient celles que l'on connaît au niveau de la planète aujourd'hui. Alors maintenant, il faut dire deux mots de l'explication des mécanismes qui sont en cours, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que ces choses se passent. Alors, on a eu quelques illustrations tout de suite, avec notre ami sénégalais. La première chose qu'il faut dire, je crois que c'est important, c'est qu'il y a une quantité très importante de terres, entre guillemets, sous-utilisées dans le monde. Suivant la FAO et le IASA, l'institut autrichien qui s'occupe de regarder comment sont utilisées les terres, on considère qu'il y a la même quantité à peu près de terres potentiellement utilisables pour l'agriculture sur la planète que de terres actuellement utilisées. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 1,5 milliard de terres, d'hectares de terres qui sont exploitées de façon agricole à l'heure actuelle, et 1,5 milliard de terres qui sont à 1,6, ça dépend si on considère qu'elles sont vraiment favorables ou à peu près utilisables, entre 1,3 et 1,7 milliards de terres qui sont potentiellement utilisables. Alors ça, c'est un peu les terres vacantes et sans maître dont parlait notre collègue, c'est-à-dire qu'en fait elles sont pas si vacantes que ça, et puis il y a quand même des maîtres, même s'ils ne sont pas chrétiens, sur ces terres, et donc on se rend compte quand on va voir un peu plus près qu'il y a des gens qui ont des droits, mais que ces droits ne sont pas reconnus, mais c'est quand même vrai qu'elles sont utilisées d'une manière assez extensive. C'est-à-dire que finalement ça peut quand même s'intégrer dans un système où les terres très utilisées sont juste à côté, et c'est des systèmes de pâturage, mais les animaux jouent un rôle essentiel dans la concentration de la fertilité dans les terres qui se trouvent à côté, comme on a eu dans nos montagnes françaises, comme ça se fait assez souvent. Il y a très souvent des systèmes de jachères, avec des de jachères ou de friches forestières de longue durée, qui apparaissent comme des terres non cultivées, donc ça pose vraiment des problèmes. Mais il y a quand même beaucoup de terres qui sont sous cette catégorie-là, donc 1,5 milliard de terres, si on considère d'hectares de terres, si on considère les estimations actuelles qui sont très très sous-évaluées à mon avis, les plus importantes font état depuis les 10 dernières années, de 230 millions d'hectares qui auraient fait l'objet d'accaparement. En fait, je crois qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais ça reste quand même assez peu par rapport aux 1,5 milliard de terres qui sont potentiellement accaparables. Si on rajoute à ça les terres de savane et les terres de forêt qui existent encore et qui ne sont pas en usage agricole, il y a beaucoup plus de terres encore qui peuvent faire l'objet de ces phénomènes. Alors ça, c'est le premier constat qui est important. Alors en Amérique latine, grâce aux Espagnols, on avait beaucoup de terres vacantes et sans maître, puisqu'il y avait 9 dixièmes de la population hispanique qui a succombé à l'arrivée des Espagnols dans les quelques décennies qui ont suivi. Ça a fait de la place, on s'est retrouvé avec beaucoup de terrains qui ensuite ont donné lieu à tout le phénomène de colonisation de terres vierges, entre guillemets. Là, elles étaient relativement vierges, il y avait quelques Indiens sauvages qui chassaient dans ces terres-là, mais ça a permis pendant plusieurs siècles d'assurer une progression de la frontière agricole, et cette frontière agricole, elle est aujourd'hui en train d'arriver à sa limite, sauf dans le grand bassin amazonien, où il y a encore un peu de terre, et c'est là que se produisent beaucoup de ces phénomènes d'accaparement à l'heure actuelle. Alors, juste pour vous donner une idée sur les ordres de grandeur, le ministère du développement agricole brésilien, qui s'appelle le MDA, au Brésil, ils sont assez innovants, ils ont deux ministères d'agriculture, un pour les riches, un pour les pauvres, c'est assez pratique. Le ministère des pauvres, le MDA, a fait une estimation il a fait une étude de tous les titres de propriété qu'ils avaient en archive, et ils ont découvert qu'il y avait 93 ou 94 millions d'hectares qui avaient été appropriés de manière frauduleuse, sur la base des révisions titre par titre, et c'est pas le NST, le mouvement des sans terre, ni un groupe de gauchistes, maoïstes, je sais pas quoi, qui dit ça, c'est le ministère officiel du Brésil. Donc 93 millions d'hectares seulement au Brésil, ce sont ces fameux communs dont parlait ma voisine, qui sont appropriés, ou des terres avec très très peu d'habitants des indigènes de l'Amazone, ou bien des terres qui étaient sous gestion communautaire, avec une partie privée, une partie commune, mais qui n'avaient pas de titre de propriété. Et inutile de vous dire que ces 93 millions d'hectares, ce n'est pas des parcelles de 10 hectares chacun. Hein. C'est-à-dire que c'est la moyenne, elle est de plusieurs milliers d'hectares, hein, ou plusieurs dizaines de milliers d'hectares par titre de propriété. Bon, tout ça, donc...
Deux minutes.
Donc, dernier point, alors ça devient très 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 chaud. On vous parle d'investissement. Hein. Tout le monde vous dit, vous rabâche constamment qu'on a besoin de plus en plus d'investissement dans l'agriculture, que si les gens meurent de faim, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement. On vous raconte des histoires. Ce n'est pas du tout vrai. Hein. Il y a de fait eu peu d'investissement, mais on a un mécanisme de paupérisation des agricultures du monde qui vient en fait de la réalisation d'échanges extrêmement inégaux entre les agriculteurs les plus productifs et ceux qui sont les moins productifs. Hein, quand vous produisez du riz qui contient 100 fois plus de travail, hein, c'est un même sac de riz que celui qui est produit par votre voisin à côté, hein, de fait, vous échangez un jour de travail contre 100 jours de travail. Les échanges sont souvent plus importants et donc tous les agriculteurs les plus pauvres avec ces mécanismes d'échange dont j'ai parlé sont dans un processus de paupérisation croissante et ça explique pourquoi aujourd'hui on a 1 milliard de personnes, en gros 800 millions, hein, qui souffrent de la faim et une bonne partie d'autres qui souffrent de carences tout à fait durables. Donc on a ces investissements dont on parle, c'est d'abord le manque d'investissement de gens qui n'arrivent même plus à survenir à leurs propres besoins alimentaires de base, hein, et puis c'est également des phénomènes d'investissement qui n'ont rien à voir avec les investissements, mais qui sont en fait des captures de richesses, hein, qui s'opèrent avec des mécanismes qui sont divers. Hein. Ces mécanismes, c'est la remise par l'État à titre gratuit à un investisseur de quantité gigantesque de terres. Les scandales ont commencé à éclater avec l'affaire Dewu à Madagascar, où l'État malgache était en train de signer un contrat avec l'entreprise Dewu pour 1 300 000 hectares de terre, hein, sur l'île de Madagascar, hein, à une seule entreprise étrangère, gratuitement, pendant 99 ans, avec le seul engagement verbal de faire un peu de développement, hein, et de faire quelques ports et quelque chose comme ça. Hein, donc finalement, ça s'est pas fait, mais on retrouve ces choses un peu partout, donc on a à chaque fois des négociations qui sont des exemptions fiscales pendant de très très nombreuses années, des loyers ou des prix de la terre dérisoires, et grâce à la technologie, des rémunérations du travail extrêmement faibles. Donc finalement, l'explication de tout ça, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde où il y a énormément d'argent disponible, qui est susceptible de volatiliser avec l'éclatement des bulles financières d'un moment à un autre, en une fraction de seconde parfois, hein, on a en même temps des États qui se croient propriétaires de choses dont ils ne le sont pas en réalité, hein, et on a un processus dans lequel on n'a plus besoin d'envoyer une armada de conquistadors pour faire la guerre au peuple indien, hein, comme on a fait avant. On n'a plus besoin d'exporter des millions d'esclaves quand on a tué tous les Indiens qu'il y avait pour pouvoir faire marcher quand même les plantations. On n'a plus besoin d'exporter tous nos paysans pauvres qui provenaient de ces phénomènes d'enclosure dont a parlé ma voisine ici. Hein, et maintenant, on procède légalement, comme gentlemen, avec des bons contrats, où l'État nous cède, en tant qu'investisseur, 200 000, 300 000 hectares pour pouvoir faire du développement et développer le pays. Hein, moyennant quoi, on vous permet d'avoir un accès gratuit à tout ça, on vous oblige à strictement rien, et finalement, vous vous appropriez toutes ces richesses de la manière la plus rapide, hein, et avec l'accord de tout le monde. Et tout le monde est content, et il n'y a plus aucune violation formelle du droit, où tout est fait dans les règles de l'art. Alors ça, c'est extrêmement grave, et donc c'est finalement, et je conclue là-dessus,
oui.
Hein, je conclue là-dessus, on est face à un phénomène d'enclosure au niveau mondial, hein, qui est extrêmement sérieux, et par rapport aux conditions que j'ai décrites tout à l'heure, on a vraiment des choses extrêmement importantes à remettre en cause, qui vont très très loin, que très peu de gens veulent accepter et de regarder comme tel, hein, et le problème par rapport aux enclosures de l'Angleterre du siècle dernier, de l'avant-dernier, hein, on n'a pas d'endroit où envoyer tous ces gens qui vont être expulsés et qui vont se retrouver sans travail. Un collègue qui n'est pas non plus un Uluberlu, qui est l'ancien directeur scientifique du CIRAD, M. Henri Rouillet-Dorfeuille, faisait une estimation assez rapide l'autre jour en disant que si les processus continuaient tels qu'ils sont en ce moment en cours dans la transformation de l'agriculture, hein, et si on ajoutait au nombre de gens qui étaient actuellement, qui souffraient de la faim actuellement, qui n'avaient pas d'emploi, et si on prenait en compte la croissance démographique, il faudrait que d'ici 2050, on ait créé 3,5 milliards d'emplois sur la planète. Autant vous dire que ça ne va pas se faire, et que donc il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Est-ce que ce sera comme les Romains? Est-ce qu'on va être obligé de taper sur les riches quand on n'aura plus le choix pour défendre notre propre situation? Hein, et de redistribuer de la terre un peu à un certain nombre de barbares et de sauvages, je n'en sais rien. Est-ce qu'il va y avoir une grande épidémie comme en Amérique latine? Peut-être. Une grande guerre? Peut-être. Mais de toute façon, l'avenir est quand même un peu inquiétant.
Merci Michel. Merci.
S'il nous reste quelques minutes, nous voudrions vous donner la parole pour que vous puissiez réagir, poser des questions, peut-être...